Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée à la politique étrangère de Vladimir Poutine, expression d'un pouvoir sûr de lui-même ou au contraire reflet des fragilités de la Russie depuis l'effondrement de l'Union soviétique. La question se pose alors que le constat est là. Sur la scène internationale, Vladimir Poutine a rendu la Russie incontournable. Nos invités, Jean-François Boutor, ancien journaliste au quotidien La Croix, collaborateur de la revue Esprit et éditorialiste à Ouest France, auteur de « Comment Poutine change le monde » qui vient de paraître aux éditions François Bourin. Bonjour.
Bonjour.
Michel Tchaninov, rédacteur en chef de Philosophie Magazine et auteur pour ce qui nous intéresse aujourd'hui de Dans la tête de Vladimir Poutine, paru aux éditions Actes Sud. Bonjour.
Bonjour.
L'armée russe s'est illustrée ces dernières années sur plusieurs champs de bataille. Été 2008, conflit éclair en Géorgie et depuis 1991, implication dans 8 guerres liées à l'éclatement du bloc soviétique, dont les deux campagnes de Tchétchénie. Auparavant, c'est l'armée rouge qui se retirait en 1989 pour mémoire d'Afghanistan. Après le conflit éclair de Crimée en mars 2014, la guerre hybride du Donbass et la participation de la Russie aux côtés de l'armée syrienne, beaucoup voient dans l'armée russe un phénix renaissant de ses cendres. Elle investit et se modernise. La Russie a augmenté de plus de 21% ses dépenses budgétaires militaires en 2015, passant du 8e au 5e rang. Alors il y a un an, pratiquement jour pour jour, c'était le 25 février 2015, était assassiné face aux remparts du Kremlin à Moscou, Boris Nemtsov, l'un des principaux opposants russes, opposant mais aussi élu de la nation et ancien dirigeant de la Russie post-communiste. Boris Nemtsov préparait un rapport sur Poutine et la guerre dans lequel il entendait montrer comment et pourquoi l'agression russe contre l'Ukraine avait été décidée. Nemtsov n'a pas eu le temps d'achever son rapport, il en avait toutefois suffisamment écrit, des notes, manuscrits, assemblages de documents. Et ce rapport vient de paraître dans sa traduction française. Il évoque ce que d'aucuns appellent revival stalinien, sorte de renaissance stalinienne de la Russie. Il y avait un message posté par Boris Nemtsov sur Facebook peu de temps avant d'être assassiné, c'était le 31 janvier 2015, dans lequel il écrivait « L'opposition a un devoir d'éducation et de vérité. Et la vérité, c'est que Poutine est synonyme de guerre et de crise. » Alors j'ai cette question pour chacun, pour démarrer cette émission. Est-ce que Poutine est plus belliqueux que ses prédécesseurs ou simplement plus ouvertement belliqueux? Je ne sais pas qui veut commencer.
J'ai commencé.
Jean-François Boutor.
Ses prédécesseurs n'étaient pas si belliqueux que ça. On peut en tout cas pas dire ça de Boris Eltsine, qui notamment, si on prend un cas comparable, puisqu'il y avait eu une espèce de faux soulèvement de la Crimée avec un président fantoche qui s'appelait Mechkov, qui voulait le rattachement de la Crimée à l'Ukraine, et il s'y était finalement opposé. Il avait juste utilisé ça pour sanctuariser la question de la base militaire, de la base navale de Sébastopol. Mais on n'a pas de traces patentes d'une volonté militaire de Eltsine. Alors si on remonte en arrière, il faut remonter à Brejnev, 1979, l'intervention en Afghanistan avec une catastrophe absolue. Donc c'est d'ailleurs ça qui marque l'effondrement de la puissance militaire soviétique, aujourd'hui russe, que Poutine va vouloir remettre en scène, lui-même ayant fait des expériences douloureuses, parce que la première guerre de Tchétchénie, ça s'est mal passé, et la deuxième, ils ont mis beaucoup de temps à l'emporter.
Première guerre, juste pour mémoire, Jean-François Boutor, 1994-96 voilà. Pour la première, et 99-2000 pour, voilà, pour la seconde.
99-2000 pour la seconde, qui est vraiment menée par Poutine, et c'est pas si facile que ça, puisqu'ils ont besoin de se servir d'une espèce de satrape en la personne de Ramzan Kadyrov, qui mène une guerre atroce, il faut bien le dire, et pas du tout à la gloire de l'armée russe. Donc, avant, c'est pas si belliqueux. Ce qui change, à mon avis, c'est que la fin de l'Union soviétique nous a fait entrer dans la mondialisation. Et on est sorti d'un rapport simplement Est-Ouest où les choses étaient globalement calées. Et du coup, la mise en scène de la force se joue sur tous les terrains et Poutine, sans doute, l'a mieux compris et plus vite, notamment, que les Occidentaux, et que de ce point de vue-là, il pousse son avantage. Alors, il est plus ouvertement belliqueux parce que lui croit à la force comme outil pour façonner le monde. C'est ce que j'explique d'ailleurs. Il revient finalement à quelque chose que Patochka avait expliqué comme étant une grande caractéristique du début du XXe siècle qui nous a donné les deux premières guerres mondiales. Il revient à ça et il y revient de manière, comment dire, tonitruante, on va dire. Et on n'était pas prêt à ça.
Michel Tchaninov.
Oui, je crois que Vladimir Poutine est à la fois plus belliqueux et plus ouvertement belliqueux, et que du coup ça crée un nouvel ensemble d'actions et de paroles, avec une montée en puissance qui est très nette. C'est-à-dire que depuis la seconde guerre en Tchétchénie, effectivement, qu'il a initiée et qui a eu lieu dans des conditions terribles, pour notamment pour les populations civiles, depuis quelques années, il y a clairement une montée en puissance. Alors on l'a rappelé, c'est d'abord 2008, l'intervention éclair en Géorgie, sous prétexte humanitaire, afin d'empêcher la Géorgie de reprendre deux territoires qui appartiennent à sa souveraineté. Donc déjà une petite expérience en 2008 de guerre éclair, au vu au sud du monde entier. Mmh. Et ensuite, évidemment, une montée en puissance dans les discours qui se fait très nettement, notamment à partir de 2012, lorsque Vladimir Poutine revient à la présidence de la Russie. Il y a un discours de la guerre qui se développe avec une manière d'assumer le destin guerrier de la Russie et d'assumer effectivement un discours de la force contre un Occident jugé faible et décadent. Donc il y a vraiment l'idée que la différence russe tient dans le fait d'assumer la guerre. Et ensuite, les choses s'enchaînent malheureusement de manière assez logique, puisque en 2013, donc il y a un tournant conservateur et belliqueux dans le discours. Fin 2013, il y a le Maïdan, c'est-à-dire la révolution ukrainienne, et la réaction russe qui est extrêmement violente, l'annexion de la Crimée en mars 2014, qui se fait sans effusion de sang, mais quand même de manière militaire, et puis le soutien, l'organisation et le soutien aux séparatistes pro-russes dans le Donbass. Et ensuite, il y a un feu nationaliste qui s'empare de la Russie pendant toute l'année 2014 et qui, disons, dure jusqu'en mai 2015. Et en mai 2015, Vladimir Poutine relance ce feu avec les célébrations grandioses des 70 ans de la victoire soviétique sur le nazisme. Et là, il y a une espèce de spectacle ahurissant de la grandeur russe, qui est extrêmement bien mise en scène, évidemment, où Vladimir Poutine exhibe de nouvelles armes sur la place Rouge, et où le peuple est invité à descendre pour glorifier les ancêtres tombés héroïquement, évidemment, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, Poutine relance le feu nationaliste en mai 2015. Mmh. C'est à ce moment, d'après les informations dont nous disposons, que les émissaires iraniens et syriens commencent à venir à Moscou pour préparer l'intervention de septembre 2015. Et donc, évidemment, la nouvelle étape, c'est l'intervention russe en Syrie. Donc, vous voyez, il y a toute une montée en puissance où le discours et l'action s'encouragent l'un l'autre. Le discours est là pour justifier cette posture de guerre, et l'action est là pour avancer, et pour avancer effectivement dans une direction inédite, puisque l'intervention en Syrie, donc, qui a commencé en septembre 2015, est la première grande intervention russe à l'extérieur depuis la guerre d'Afghanistan, qui s'était achevée de manière piteuse et atroce dans les années 80 en Russie.
À l'extérieur.
Jean-François Boutin.
Ne disons pas que la Géorgie, c'est l'intérieur, quand même.
Non, l'extérieur lointain, vous m'avez compris. Oui. C'est-à-dire une projection loin de l'ancien territoire soviétique.
Alors, ce que l'on voit, c'est un élargissement des cercles. Hein. C'est cela que vous dites, Michel Tchaninov. Alors, ça a démarré, effectivement, avec la Géorgie. Ensuite, l'Ukraine, aujourd'hui, la Syrie. La question qui se pose est de savoir s'il y a une vision globale, un objectif final, ou est-ce que, finalement, une étape passée en ouvre une autre, et ça permet à Poutine de voir plus clairement la façon dont il entend faire bouger le curseur et changer le monde, comme le dit le titre de votre ouvrage, Jean-François Boutin.
Alors, je vais donner une réponse contrastée. C'est que d'un côté, on voit en fait se dessiner dans de ces différentes opérations une victime fondamentale, c'est l'Europe. Et c'est ça qui désigne d'une certaine manière l'objectif de Poutine. L'intervention en Ukraine, elle est motivée par la volonté affirmée de la population ukrainienne de se rattacher à l'Europe. Et ça, Poutine n'en veut pas, parce qu'une Ukraine rattachée à l'Europe qui fonctionnerait serait un puissant contre-modèle du régime qu'il impose à la Russie. Il le craint fortement. Ça, c'est la raison, à mon avis, la plus profonde de l'intervention en Ukraine. L'intervention en Syrie, on voit aussi que c'est l'Europe qui en est la victime, parce que ça joue, il se passe deux choses. D'une part, on a, au fond, là on l'a vu récemment autour de la question des négociations sur les accords de paix, on a la reconstruction de ce que le général de Gaulle appelait le condominium, c'est-à-dire qu'on s'entend entre Moscou et Washington, et l'Europe est un partenaire exclu du jeu. Et puis, avec la crise des réfugiés, dont on peut penser qu'elle est pas fabriquer immédiatement, mais en tout cas utilisé largement par la Russie, on met les structures européennes à très très rude épreuve et on affaiblit l'Europe. Alors là, on est dans une vieille tradition russe en réalité, où au fond, à Moscou, pendant longtemps, en tout cas à partir du moment où est apparue la puissance américaine, on a pensé qu'il fallait déconnecter l'Europe des États-Unis, parce que un Occident trop puissant est considéré comme une menace. Donc là, d'une certaine manière, on pourrait dire que c'est un plan. Mais là où je vais nuancer tout ça, c'est que je pense que Poutine est en même temps quelqu'un qui est, dans cette situation-là, quelqu'un d'essentiellement pragmatique. C'est-à-dire qu'il s'est souvent défini comme un spécialiste des arts martiaux, c'est-à-dire comme quelqu'un qui utilise les mouvements de son adversaire pour prendre l'avantage. Je ne crois pas qu'il ait forcément une vision à long terme, étape après étape, et puis qu'il a 15 coups d'avance. Je pense qu'il est en train de se dire, où est-ce qu'ils sont faibles, où est-ce que je vais pouvoir gagner du terrain, et chaque fois avancer un pion. À mon avis, la question de Poutine, c'est pas, contrairement à ce qu'on dit souvent, la question de rétablir l'empire russe. L'empire, c'est une vision du 19e siècle. Et Poutine n'est pas un homme du 19e, c'est un homme du 21e siècle. Ce qui l'intéresse, c'est la domination. C'est que on ne puisse pas faire quoi que ce soit dans le monde sans que lui ait son mot à dire, sans que on passe par, d'une certaine manière, ses fourches coudines. C'est ça qu'il veut. Il veut être le maître dans la cour de récréation. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il s'est lui-même décrit dans la campagne électorale de 2000. Il s'est présenté dans un livre qui s'appelait Pirvovolitsa à la première personne. Il répond en se présentant à des journalistes. Il répond en disant, moi, quand j'étais gamin, j'étais un hooligan et personne ne pouvait rien faire dans la cour sans moi. Et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me cherchait des noix, je tapais le premier. Et il dit toujours aujourd'hui qu'il faut taper le premier. Il le dit même, y compris sur l'usage de l'arme nucléaire.
Michel Djalinov.
Oui, alors effectivement, Vladimir Poutine n'a pas un objectif fixe à long terme. C'est aussi ce qui fait une partie de sa force. Mmh. C'est-à-dire qu'il avance là où il y a du vide. Quand les États-Unis, après le néoconservatisme de Bush fils, se retirent un peu des affaires du monde, il avance. S'il sent une hésitation de la part des Européens ou des Occidentaux, il avance. Donc, il se garde une fourchette d'actions possibles. Il a face à lui toute une gamme d'interventions. Et c'est pour ça que quand il mène des guerres de manière non conventionnelle, comme en Ukraine, où il nie sa participation tout en évidemment en contrôlant une partie des séparatistes pro-russes, il se laisse la liberté de réappuyer sur la touche violence quand il le désire. Et ça peut être le cas en Ukraine demain, ça peut être le cas en Ukraine aujourd'hui. De même, en Syrie, il a annoncé au monde entier qu'il allait détruire l'État islamique, l'organisation de l'État islamique. Pour l'instant, on sait qu'il bombarde davantage l'opposition à Bachar el-Assad que l'État islamique. Donc, il se garde cette marge de flou pour agir à sa guise, sans effectivement avoir un but, une finalité absolument claire, si ce n'est, et là je suis tout à fait d'accord avec vous, Jean-François Boutor, si ce n'est être sans doute à la pointe, et donc à la tête, d'un mouvement de bascule du monde. Et là, c'est quelque chose qui se passe de très important et qui ne concerne pas seulement une possible désintégration de l'Union européenne, mais qui signifie également avoir le leadership sur un basculement idéologique qui, d'après lui, peut être également un basculement politique, où l'on passerait d'un monde régi par, le droit, la démocratie, telles qu'elles ont été instaurées depuis un siècle, notamment en Europe, à un monde fondé sur les identités. Sur des idéologies identitaires, sur des idéologies de la force brute et de l'exclusion. Et là, évidemment, Vladimir Poutine encourage toutes les forces qui non seulement combattent le projet européen, mais qui également veulent imposer cette idéologie nouvelle aux Européens, mais aussi aux citoyens d'autres parties du monde, en Asie, en Afrique, en Amérique. C'est-à-dire que Vladimir Poutine assume de plus en plus clairement ce rôle idéologique de porte-drapeau de ce renversement historique où finalement les citoyens ne croiraient plus en la puissance du droit et de la démocratie et croiraient davantage à la force des identités, à la force des idéologies, disons, de domination. Et là, évidemment, il y a un travail qui est fait par le Kremlin et par diverses organisations qui travaillent autour du Kremlin pour user de cette influence. Donc pour essayer de travailler sur l'esprit des citoyens du monde entier, pour expliquer que finalement, bah, notre démocratie est par essence faible, et donc il faudrait changer de modèle.
Alors, oui, ça va très loin parce que
Jean-François Boutin,
ça va très loin parce que on en voit les effets, y compris en Occident. Le phénomène Trump, d'une certaine manière, ça participe de ça. Et Trump est quelqu'un qui, comme Poutine, est prêt à dire n'importe quoi dès l'instant que c'est efficace, dès l'instant qu'on on frappe l'opinion et qu'on peut emmener l'opinion derrière soi. Là aussi, c'est un registre de la force qui s'impose. Le soutien du Kremlin aux différents partis d'extrême droite en Europe, c'est du même ordre. On a aussi une espèce de fascination qui entre en jeu depuis quelques années déjà autour de la Russie, parce que elle avait l'air d'être plus efficace que le modèle démocratique. Et ça, c'est dans les milieux économiques. On trouve que c'est compliqué d'être obligé de négocier, etc. Mmh. D'ailleurs, on voit, regardez à quel point on est bloqué en France. Donc, on aurait besoin d'une forme d'autorité qui imposerait ça. Alors, l'identité, c'est un leurre. C'est-à-dire que c'est une manière de mobiliser les gens. Je pense que Poutine se moque en réalité profondément des identités. Encore une fois, la question, c'est le pouvoir, et c'est une caste qui tient le pouvoir. Et Poutine ne sort pas de rien. Il sort d'un appareil qui est un appareil d'organes de sécurité, l'ex-KGB, mais aussi, enfin, on a aussi les forces du ministère de l'Intérieur, le GRU, etc. Un appareil qui a des réseaux internationaux. Et notamment, c'est important à savoir, il avait des réseaux avec les partis bassistes en Irak et en Syrie. Et on sait qu'une partie des agents de sécurité de Saddam qui ont aujourd'hui donné à Daesh sa consistance et son efficacité, c'est des gens qui étaient forcément en contact avec les services secrets soviétiques et russes. Il y a beaucoup de gens qui, dans le KGB, parlent arabe, et très bien, et qui ont été en poste dans ces choses-là. On apprend hier que une société russe exploite aujourd'hui le gaz en Syrie en partenariat avec Daesh. Ça a l'air de surprendre, mais en réalité, c'est pas du tout une surprise. C'est en réalité la confirmation que ces réseaux sont à l'œuvre. Mmh. Ils sont à l'œuvre dans le monde, et ils ont une volonté de domination. Mmh. Et chaque fois qu'ils pourront convaincre quelque part que la force où le mensonge est plus efficace que le débat et la démocratie, ils seront gagnants.
Alors, volonté de domination et refus du politiquement correct, Michel Tchaninov, ça, ce sont deux éléments extrêmement prégnants.
Alors effectivement, le refus du politiquement correct est une constante du discours poutinien. On se souvient de l'inaugural « j'irai buter les Tchétchènes jusque dans les chiottes » de 1999. Vladimir Poutine aime à se présenter comme justement l'homme politique qui parle le langage du peuple et qui ne se dissimule pas derrière les formules hypocrites qui seraient, d'après lui, utilisées par les Occidentaux. Donc Vladimir Poutine est quelqu'un qui maîtrise parfaitement la communication politique, c'est quelqu'un qui parle beaucoup et bien, et donc qui aime parsemer ses discours de saillies, parfois grossières, de proverbes populaires, etc. Son idée, c'est vraiment que cette critique du politiquement correct est une position idéologique et politique très forte. Les Occidentaux sont, d'après lui, hypocrites, c'est-à-dire parlent un langage policé pour dissimuler des actions qu'ils sont beaucoup moins. Lui, au contraire, serait dans une ligne de franchise et de sincérité. Alors évidemment, cet artifice de communication est un peu délicat en ce qui concerne la guerre en Ukraine. Puisque Vladimir Poutine, d'un côté, dit qu'il appelle les choses par leur nom, et de l'autre côté, pendant plus d'un an, il a nié toute participation des forces russes, pourtant avérée notamment dans le rapport Nemtsov, extrêmement bien documenté. Il suffit d'interroger les mères de soldats russes envoyés en Ukraine. Donc Vladimir Poutine, là, est pris un peu à son propre piège.
Il n'assume pas, et pour quelle raison? Alors peut-être un peu rapidement, pour 30 secondes, pour terminer, on poursuivra dans la deuxième partie de l'émission.
Il n'assume pas parce que cette guerre est encore plus en violation du droit international. L'armée russe n'a aucun droit de participer à une guerre contre les Ukrainiens en Ukraine sans passer par le droit international. Donc là, Vladimir Poutine joue au voyou. C'est-à-dire qu'il aime dire, finalement, il aime manier la dérision. Il aime dire finalement que la vérité, le mensonge, la conformité au droit, ce sont des choses un peu bourgeoises, pas intéressantes. Et lui se donne les moyens, justement, de violer ce droit, ce qui est le problème principal.
On poursuit dans la deuxième partie de l'émission géopolitique. Nous retrouvons nos invités, Jean-François Boutor et Michel Tchaninov, dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la politique étrangère de Vladimir Poutine. Nous retrouvons nos invités Jean-François Boutor, ancien journaliste au quotidien La Croix, collaborateur de la revue Esprit, éditorialiste à Ouest-France, auteur de « Comment Poutine change le monde » qui vient de paraître aux éditions François Bourin, et Michel Elchaninov, rédacteur en chef de Philosophie Magazine et auteur de « Dans la tête de Vladimir Poutine » paru aux éditions Actes Sud. Nous avons évoqué dans la première partie de l'émission le rapport Nemtsov sur Poutine et la guerre qui met donc en lumière le rôle de la guerre dans la vision du monde et l'action de Vladimir Poutine. On l'évoquait en Ukraine, Vladimir Poutine affirme ne pas mener la guerre, donc il y a un certain déni, alors qu'en Syrie, il assume au contraire, afin de se poser en défenseur des civilisations identitaires, en protecteur des chrétiens d'Orient, en protecteur aussi de ses propres intérêts. Hein. Jean-François Boutor, vous l'évoquiez avec cet accord, en tout cas l'exploitation de gaz en Syrie qui se fait en partenariat entre Moscou et Daesh. La guerre pour Poutine, elle dessine le destin historique de la Russie dans sa défense contre un Occident structurellement hostile et décadent. Vous l'évoquiez, Michel Elchaninov. On a quitté la première partie de l'émission sur la notion de volonté de domination et du refus du politiquement correct, Michel Elchaninov.
Oui, c'est-à-dire que, en fait, tout le débat porte sur la définition de la force. Et qu'évoque d'ailleurs très bien Jean-François Boutor dans son ouvrage. C'est-à-dire que Vladimir Poutine veut faire croire au monde que lui incarne aujourd'hui la force et que, par conséquent, l'Europe est faible. Faible parce qu'elle est démocratique, faible parce qu'elle est ouverte, faible parce qu'elle défend les droits des minorités, faible parce qu'elle croit aux contrats et aux lois. Donc là, il y a un jeu conceptuel très important dont il s'agit de sortir si on veut savoir ce que c'est qu'une force démocratique. Et alors là, évidemment, il faut distinguer force et violence. Vous savez, Jean-Paul Sartre avait toujours un exemple, il disait, quand on veut ouvrir une bouteille de vin, tirer le bouchon, il faut de la force. Si on n'y arrive pas, on casse la bouteille, et là on n'est plus dans la force, on est dans la violence. Et c'est cette distinction entre force et violence qui est fondamentale. Vladimir Poutine use de violence, notamment vis-à-vis de certains de ses propres citoyens, use de violence en violant le droit international, en Crimée ou lors de crimes de guerre en Tchétchénie ou en Syrie. Comment réussir pour les Européens, par exemple, mais pour le monde en général, à montrer qu'on peut déployer une force qui soit obéissante au droit, sans tomber dans la violence. Et tout l'enjeu, je pense, véritablement philosophique de cette grande confrontation que nous propose aujourd'hui Vladimir Poutine est là. Qu'est-ce que c'est qu'une force démocratique et comment l'assumer ? C'est la question que Vladimir Poutine nous pose.
Alors, Jean-François Boutor, je me tourne vers vous. La grande faiblesse que nous évoquions, c'est aussi d'avoir laissé Vladimir Poutine œuvrer tranquillement en Ukraine.
Oui, en même temps, la raison pour laquelle on l'a fait, c'est précisément parce que nous croyons encore aux traités internationaux, à la diplomatie internationale, aux médiations, à la négociation, et que penser qu'on aurait pu intervenir militairement en Ukraine, c'est-à-dire opposer violence contre violence pour résoudre le problème ukrainien, c'était une illusion. Mmh. C'est pas de la faiblesse de constater de ça, c'est de la raison, me semble-t-il. Il faut pas se tromper. La stratégie, d'ailleurs, des sanctions s'est avérée relativement efficace. Elle a été aidée par la chute des cours de l'énergie, mais elle s'est avérée relativement efficace. Là où on a été faible sur cette affaire-là, c'est chez nous, d'une certaine manière. C'est que on n'a pas été capable de comprendre que cette stratégie des sanctions nous coûterait quelque chose, et donc on n'a pas mis en œuvre ce qui nous caractérise, qui est aussi des structures de solidarité qui auraient permis, notamment, et c'est la question devant laquelle on est aujourd'hui, qui auraient permis aux agriculteurs européens de faire face au coût de ces sanctions. Parce qu'au final, c'est sur eux que ça repose. Et aujourd'hui, ils sont pas contents, ils mettent en danger, d'une certaine manière, par leur réaction, là aussi, les fonctionnements démocratiques chez nous. Mais ce qu'il faut faire, à mon sens, c'est précisément, d'une part, rester dans le temps long. On ne gagne pas forcément tout de suite quand on est démocrate, quand on croit à la négociation, etc. Mais par contre, on a toujours raison à long terme, même si on subit, même si à certains moments on peut être victime de la violence, on a toujours raison de ne pas perdre, si j'ose dire, notre âme. Les empires s'effondrent, les puissances se défont. On voit bien la situation dans laquelle Vladimir Poutine se trouve aujourd'hui. Il avance sur un ensemble de terrains internationaux, mais son pays ne va pas bien. Et un jour ou l'autre, il va être devant la contradiction entre la faiblesse structurelle de son économie et ses engagements. Ce qu'il faut, c'est que nous tenions ce temps-là, sans perdre notre âme, parce que c'est à ce moment-là que nous reviendrons dans le jeu de manière beaucoup plus pertinente. Mais il faut que nous soyons solidaires entre nous. C'est le grand défi d'ailleurs, hein, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que les États européens aujourd'hui ont un mal fou à se mettre d'accord, à assumer ensemble les difficultés de la situation, et chacun est aujourd'hui dans le chacun pour soi. J'aime assez la déclaration de Merkel qui dit on reviendra sur la question des réfugiés, il y aura un sommet, puis si ça marche pas, il y en aura un autre. Elle dit il faut continuer à discuter, à négocier. Et c'est ça la force à laquelle il faut pas renoncer. C'est un choix difficile parce que ça nous coûte quelque chose, on n'en voit pas les effets immédiats, alors qu'on pourrait avoir l'impression que la violence nous donne des résultats rapides. Mais encore une fois, si on prend l'exemple que Michel a pris tout à l'heure de la bouteille de vin, eh bien, quand vous avez pris le temps d'ouvrir la bouteille, vous pouvez verser quelque chose dans votre verre, et quand vous l'avez cassé, le vin est répandu. Donc, il faut croire fermement qu'une civilité construite sur la parole donnée, respectée, sur la confiance et sur la négociation, c'est quelque chose qui est à long terme plus fort que la violence.
Donc le long terme, je me tourne vers vous, Michel Tchaninov. Finalement, ce qu'on voit aujourd'hui de la politique étrangère de Vladimir Poutine, c'est peut-être davantage d'une succession de succès que d'échecs. Mais l'histoire n'a pas dit son dernier mot.
Je pense qu'on est dans un moment de lutte entre ces deux visions du monde. Je pense que l'Europe a discuté, notamment avec Vladimir Poutine, pour mettre en œuvre les accords de Minsk, pour tenter de résoudre la guerre dans l'est de l'Ukraine, ce qui va être très difficile parce que je pense que les séparatistes pro-russes vont refuser que des élections sous l'égide de l'État ukrainien de Kiev soient tenues là-bas. Donc on est sans doute à aurait de nouvelles violences en Ukraine. Évidemment, en Syrie, rien n'est terminé, puisque aujourd'hui, avec l'accord de cessez-le-feu, l'armée syrienne, sous les ordres de Bachar el-Assad, aidée par l'armée russe, ont réussi à sanctuariser des territoires qu'ils viennent de prendre, mais qu'il va y avoir d'autres étapes. Donc, on est effectivement dans un moment d'action. On est aussi dans un moment de confusion, je pense, puisque Vladimir Poutine, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, profite des doutes que certains Européens ont vis-à-vis de leur propre construction politique et s'y engouffre. Par exemple, je suis effaré de voir combien l'annexion de la Crimée, qui est en violation tout à fait manifeste de plusieurs traités internationaux signés par la Russie elle-même, n'est plus un sujet important aux yeux des Européens. Or,
pour la Crimée, la messe est dite.
Je pense qu'au fond, elle n'est pas dite, puisque la Crimée comporte une forte minorité tatare, puisque la Crimée aujourd'hui, à cause des sanctions et de la crise économique russe, ne va pas aussi bien que ceux qui voulaient l'annexion pouvaient le prédire, qu'il y a un blocus du territoire. C'est-à-dire que je pense que nous sommes dans une phase d'action, de lutte, de confusion et de doute de la part de certains Européens. Je pense que effectivement l'histoire est loin d'être terminée. Vladimir Poutine pense, et il le dit dans certains discours, que l'homme russe est par nature supérieur à l'homme occidental, car il est prêt à aller au sacrifice. Il l'a dit notamment en avril 2014, il a dit « notre code génétique, c'est de ne pas avoir peur de la mort, nous ». Alors que l'Européen cherche le confort. Donc effectivement, il y a une tentative de la part de Vladimir Poutine de faire croire à une supériorité essentielle de la Russie sur un Occident jugé décadent, tout simplement parce que démocratique et fidèle au droit. Nous sommes dans un moment de lutte idéologique extrêmement fort et effectivement l'histoire est loin d'être terminée.
Je voudrais réagir juste pour compléter ce que dit Michel. On a deux exemples patents sur les terrains justement ukrainiens. D'une part, l'action de Poutine en Ukraine a définitivement détaché l'Ukraine de la Russie, en réalité. Donc, idéologiquement, en fait, il a perdu. Totalement. Il récupérera peut-être quelques bouts de parcelles de territoire ukrainien, mais l'Ukraine est globalement passée à l'Occident, à l'Europe. Ça, c'est un fait. Et aujourd'hui, j'ai un témoignage récent d'un camarade journaliste qui voulait se rendre en Crimée pour enquêter, il a les plus grandes difficultés à obtenir un visa, parce que les Russes, il faut les demander à Moscou, et les Russes ne veulent pas aujourd'hui qu'on ramène de Crimée l'état des lieux. Or, l'état des lieux, c'est que les Russes de Crimée ne sont pas contents. Les promesses de Poutine n'ont pas été tenues. Et donc, en fait, là aussi en Crimée, d'une certaine manière, il est en train de perdre. Donc, effectivement, il a gagné quelques batailles, mais ne nous trompons pas. Sur le fond, il ne gagne pas. Et il y a quelques indices aussi qui montrent que les choses bougent. Vous avez vu peut-être la déclaration récente de Ramzan Kadyrov qui a dit que son temps était passé maintenant. On sait aussi que dans le Donbass, il y a un certain nombre de leaders qui ont été éliminés manu militari. Et semble-t-il, Poutine comprend qu'il y a peut-être un autre temps qu'il faut envisager. Mmh. Alors là, je risque une hypothèse d'une certaine manière, c'est que les régimes de cet ordre-là, ils évoluent de deux manières possibles. On a une version serbe, à la Slobodan Milošević, comme disait Florence Attman, la diagonale du fou, où le leader se laisse emporter par son hubris jusqu'à ce qu'il tombe lui-même par ce qu'il a déclenché. C'est ce qui est arrivé à Milošević. Mais on a d'autres expériences. Les généraux coréens ont fini par choisir la démocratie. On a même vu ça...
Sud-coréen,
bien sûr. On a vu ça en Birmanie même, puisque Aung San Suu Kyi, après des années d'assignation à résidence, a pu gagner une élection. En France, on a quand même l'histoire du Second Empire qui se termine dans la Troisième République. Je ne veux pas dire que c'est fatalement ce qui va arriver, mais c'est une possibilité.
Michel Janinov.
Je suis un tout petit peu moins optimiste pour deux raisons. D'abord, les esprits ukrainiens, et notamment dans énormément de territoires de l'Est ukrainien, sont acquis à l'Europe, c'est une évidence. Mais Vladimir Poutine, en maintenant ce foyer vivant de violence dans l'Est de l'Ukraine, va empêcher un rapprochement beaucoup plus rapide de l'Ukraine aux structures européennes. Ça sera sans doute pareil en Syrie, malheureusement, dans l'avenir. Donc, Vladimir Poutine réussit parfois à, entre guillemets, pourrir des pays pour empêcher leur adhésion pleine et entière, notamment à l'Europe. Première chose. Deuxième chose, certes, la violence poutinienne est le fait d'une puissance faible. Économiquement, la Russie aujourd'hui va très mal et socialement, elle va aussi très mal. Donc, cette puissance est faible. Mais Vladimir Poutine a un pouvoir de projection fantasmatique sur des esprits qui sont loin de la Russie, qui ne sont pas concernés par les problèmes de corruption, de structures de santé, d'infrastructures, etc. Et qui, véritablement, imagine que Vladimir Poutine est l'alternative à la décadence occidentale. Et donc, là, il y a une puissance fantasmatique, idéologique et fantasmatique, qui aujourd'hui joue à plein.
C'est une guerre idéologique de fond, et dans le long terme, effectivement, on est bien d'accord là-dessus.
Vous écoutez RFI, Marie-France Chatin.
Justement, moi, je voulais vous poser la question de savoir si la Russie avait les moyens économiques de ses ambitions géopolitiques. J'ai compris que Michel Janinov pensait que précisément, eh bien non. Peut-être on peut approfondir cette notion de pouvoir de projection de Vladimir Poutine. Finalement, il fascine d'une certaine manière. Et qui fascine-t-il, Vladimir Poutine, dans le monde aujourd'hui, Michel Janinov?
Il fascine beaucoup de personnes qui doutent du grand paradigme né dans les années 1960 d'émancipation et plus largement du paradigme, disons, d'installation d'une démocratie à la fois dirigée par le droit et d'une démocratie sociale. Donc, du coup, aujourd'hui, comme on est dans une période de doute, une période de crise économique, faut pas l'oublier, eh bien, Vladimir Poutine fascine ceux qui sont obsédés par l'idée de la force, on l'a dit. Il touche également tous ceux qui se reconnaissent dans un discours, disons, de conservatisme anti-européen aujourd'hui. Vladimir Poutine a suivi très attentivement toutes les manifestations dans le monde liées à l'instauration du mariage aux personnes du même sexe, notamment en France. Et il a tenu des discours expliquant, je le cite, que le mariage entre un homme et un homme, c'est mélanger Dieu et Satan. Il y a tout un discours porté par Vladimir Poutine, considérant que les valeurs traditionnelles doivent être sauvées, qu'elles s'appuient sur le patriotisme, la défense de l'hétérosexualité contre ce qu'il appelle la propagande homosexuelle, contre la culture livresque, contre Internet, etc. Donc, beaucoup de conservateurs se reconnaissent dans cette opposition poutinienne à une modernité qu'ils jugent dévastatrice. Et puis enfin, il y a les anti-américains, ils sont nombreux, qu'ils soient de gauche ou de droite, ceux qui se reconnaissent dans un gaullisme très anti-américain ou ceux qui, héritiers du Parti communiste, je pense notamment en France à Jean-Luc Mélenchon, et à tous ceux qui se reconnaissent dans le parti de gauche notamment, considèrent que Vladimir Poutine aujourd'hui est le meilleur défenseur d'une posture anti-américaine en Europe.
Jean-François Boutor, peut-être cette question pour terminer cette émission sur la notion de fuite en avant. Est-ce qu'on voit un Vladimir Poutine opter pour cette fuite en avant et finalement, qu'est-ce qui vient après? Alors évidemment, il y a la tension très forte aujourd'hui entre la Russie et la Turquie. Est-ce que voilà, tout ça nous place dans une situation particulièrement compliquée, Jean-François Boutor?
Deux pas de côté, si vous permettez, parce qu'il y a deux grandes puissances dont on a à peine parlé. Bon, d'une part, il y a l'enjeu de ce qui va se passer aux États-Unis, et je pense que
l'élection américaine,
Poutine va être extrêmement attentif à ce qui se passe, parce que selon l'issue de cette élection, il n'aura pas le même adversaire en face. Il aura ou quelqu'un qui parle son langage et qui a la même vision du monde que lui, ou alors quelqu'un qui le connaît et qui sera plus résolu, me semble-t-il, que Obama.
Aujourd'hui, Donald Trump pour les Républicains, voilà, si cela se confirme, et Hillary Clinton pour les Démocrates.
Et de l'autre côté, on oublie une autre puissance avec qui Poutine a pensé à un moment donné faire alliance, c'est la Chine. La Chine qui mène de manière différente une même logique. Xi Jinping est aussi dans une fascination de la force, d'abord ad intra, parce qu'il faut qu'il tienne un pays immense et qui est livré à des secousses de modernisation extrêmement difficiles, mais aussi ad extra, parce que Xi Jinping veut être le maître de la zone Asie-Pacifique. Et Poutine imaginait être leader dans une Eurasie avec la Chine. Or, on voit bien qu'il a, sur ce terrain-là, il a reculé, parce qu'il s'aperçoit qu'il a en face de lui quelqu'un qui se moque à peu près de lui, qui sait bien que la Russie est faible et que la Russie ne sera pas son partenaire et son interlocuteur. Xi Jinping pense plutôt, lui, partager la domination du monde avec les États-Unis. Et ça, c'est une chose très très importante, parce que il faut qu'on sorte d'une vision un peu passéiste, qui est d'un monde où il y avait deux adversaires, c'était Moscou et Washington. Nous sommes dans un monde qui est réellement multipolaire et où on joue aussi dans la négociation avec différentes forces, et les adversaires d'un moment peuvent être les alliés d'un autre. Donc c'est dans ce moment-là qu'on est. Il faut qu'on apprenne à faire avec ça, en étant, si j'ose dire, prudent comme la colombe et rusé comme le serpent. Parce que on a des adversaires qui sont malins, mais d'une certaine manière, on peut être plus malin qu'eux.
Michel Tchaninov.
Je pense que Vladimir Poutine, dans les années 2000, proposait un contrat à son peuple qui était stabilisation de la situation contre main libre pour gouverner, finalement de manière fort peu démocratique et sans respect du droit. Aujourd'hui, depuis 2012, il propose un nouveau contrat qui est « vous allez sans doute, peuple russe, connaître les larmes et le sang, puisque nous sommes revenus dans une période de guerre. Et en échange, je vous offrirai la gloire, comme la gloire passée que nous avons connue en 1945. » C'est un pacte qui est dangereux, qui est refusé, heureusement, par beaucoup de Russes. Le rapport de Nemtsov démontre qu'on peut être russe tout en déplorant la guerre en Ukraine, qu'on peut être patriote russe, disons, sans suivre aveuglément des rêves de puissance guerrière. Mais c'est ce que propose aujourd'hui Vladimir Poutine à son peuple. Donc on est dans une situation dangereuse, effectivement, parce qu'il allie une faiblesse sociale et économique à l'intérieur qu'il compense par un discours de plus en plus belliqueux à l'extérieur. Donc la situation est évidemment aujourd'hui extrêmement sensible.
Et ce qu'on peut dire, peut-être pour conclure, c'est que la Russie ne peut réintégrer le terrain du monde global avec le pétrole au plus bas et sans une levée des sanctions.
Très rapidement, le problème, malheureusement, date de 2000, de ne pas diversifier une économie fondée sur la rente, donc sur les matières premières, qui d'ailleurs a totalement modelé le type de pouvoir de Vladimir Poutine. Il a mis au pouvoir les grands dirigeants de ces conglomérats du gaz, du pétrole, du nickel, etc. Et donc, du coup, il y a une structure économique qui, aujourd'hui, pèse sur la Russie, qui donc souffre des sanctions, évidemment, qui souffre de la baisse du prix des matières premières et qui souffre de décisions politiques qui ont été prises dès les années 2000.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités, Jean-François Boutor, ancien journaliste au quotidien La Croix, collaborateur de la revue Esprit, éditorialiste à Ouest France et auteur de « Comment Poutine change le monde » qui vient de paraître aux éditions François Bourin, et Michel Tchaninov, rédacteur en chef de Philosophie Magazine et auteur de « Dans la tête » de Vladimir Poutine, paru aux éditions Actes Sud. C'est la fin de Géopolitique. Pour aller plus loin, je signale deux ouvrages, donc nous l'avons cité particulièrement dans cette émission, le rapport Nemtsov, Poutine et la guerre aux éditions Actes Sud, dans la traduction française également, Que veut Poutine de Jean-Robert Joynier aux éditions du Seuil. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Demain, Géopolitique sera consacrée aux violences à l'égard des femmes. À demain.